Bonjour et bienvenue dans Bruxelles Nature Sauvage en ce mardi 25 décembre, c'est Noël. Bonjour Michel.
Bonjour Stéphane.
Alors émission variée aujourd'hui, nous parlerons de météorites, ce qui nous complétera le reportage réalisé sur les micrométéorites en septembre. Et on reviendra également sur la marche du climat avec toi Michel.
Oui, bien évidemment.
Et bien sûr, un rapport avec les oiseaux.
Ah, bien évidemment aussi.
Et bien évidemment aussi. On s'intéressera au comité de quartier Meunier, qui se bat pour la biodiversité, mêlé à l'architecture du quartier et la défense notamment de la villa de Wynne et ses jardins. Et nous retournerons dans les années 70 à Bruxelles, où déjà les habitants défendaient l'aspect rural et vert de leur quartier, c'est le quartier Saint-Job. Et on entendra un reportage, un extrait de ce reportage qu'on peut retrouver sur YouTube. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment en Bruxelles. Bruxellois et comme on aime Bruxelles, et forcément c'est Bruxelles Nature Sauvage, Michel, d'accord? Et on y va dans quelques instants pour Bruxelles Nature Sauvage.
Pour Noël, la joie se partage sur RCF.
Oui, c'est la sixième météorite jamais découverte en Belgique. Elle s'appelle Tintigny, du nom du village où la famille de cultivateurs l'a trouvée. C'est une eurocite polmicite. C'est encore une fois un nom à coucher dehors, Michel.
À tes souhaits.
Merci. Alors, seulement 2% des météorites dans le monde appartiennent à cette catégorie. En réalité, cette météorite a été découverte en 1971. Mais c'est aujourd'hui seulement qu'elle a rejoint les 5 autres météorites belges au musée des sciences naturelles de Bruxelles.
RCF.
Eh bien voilà, nous avons donc rejoint le musée des sciences naturelles, donc on sort du studio et je rejoins Vincent Debaille qui est maître de recherche à l'ULB. C'est bien ça?
Oui.
Bonjour Vincienne.
Bonjour.
Alors, il y a une découverte qui s'est faite il y a quelques années déjà, dans les années 70, qui est une météorite. Et pour la première fois, elle est arrivée à Bruxelles. C'est ça qui fait l'exception, qui fait l'événement en tout cas ici, dans Bruxelles Nature Sauvage, c'est qu'on a une météorite qui est arrivée à Bruxelles. Est-ce qu'on peut un peu expliquer d'où vient cette météorite et quelle est son origine?
Donc, cette météorite a donc deux origines. Une première belge, puisqu'elle est tombée en Belgique, dans la commune de Tintigny, près de Virton, en 1971, dans la grange de la famille Schmitt. Et donc depuis presque 50 ans, en fait, elle est restée sous la protection de l'abbé Rossignon dans cette même commune, qui a veillé sur cette météorite. Et donc donc aujourd'hui, en accord avec la famille Schmitt, ils en font don aujourd'hui au Musée des sciences naturelles de Belgique pour qu'elle puisse être exposée au plus grand nombre. Sa deuxième origine,
oui,
elle vient de l'espace, bien sûr, et elle vient de l'astéroïde Vesta, qui est le deuxième plus gros astéroïde dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter.
Ok. Alors rappelons peut-être un petit peu pour nos auditeurs, parce que c'est une émission un peu didactique aussi, qu'est-ce que c'est une astéroïde et d'où vient cette météorite? Donc c'est détaché de cette astéroïde, c'est ça?
Donc un astéroïde, c'est un bloc rocheux qui n'a pas formé de planète. Et essentiellement, presque tous les astéroïdes ont leur source entre Mars et Jupiter, dans ce qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes. Là-bas, le milieu n'est pas très bienveillant, on a beaucoup de collisions, et donc on a des météorites qui rentrent, on a des astéroïdes qui rentrent en collision avec d'autres astéroïdes et qui vont éjecter du matériel de ces astéroïdes. C'est ce qui s'est passé avec l'astéroïde Vesta, qui a quasiment été scalpé par un énorme impact de météorites. Et donc, on a beaucoup de matériel de Vesta qui est donc venu sur Terre à partir de cet astéroïde.
Et donc, cet astéroïde rentre sur Terre. On a l'impression d'avoir une grosse masse rocheuse qui va rentrer sur Terre. Mais c'est un petit caillou, on va dire, de 5 cm carrés.
Alors, en effet, quand un astéroïde qui deviendra une météorite rentre dans l'atmosphère, on va perdre jusqu'à 90% de la masse. Et donc, il faut s'imaginer que ce petit caillou, donc, qui est gros comme le poing, finalement, il était 10 fois plus gros que ça. Et donc, on a perdu le reste, bien simplement, par échauffement dans l'atmosphère. Et donc, c'est l'éclair lumineux que l'on voit dans le ciel. On va fondre une partie de la roche et le résultat, ça va être que la météorite aura une croûte de fusion. Donc, un peu comme un gâteau brûlé, elle sera toute noire, en fait, à l'extérieur.
Et une fois qu'on découvre une météorite, quelles sont les expériences scientifiques qu'on va faire autour de cette météorite? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous apprendre au niveau de l'atmosphère, au niveau de la Terre éventuellement, au niveau peut-être même d'une naissance de vie sur Terre antérieure ou future?
Alors les météorites peuvent être divisées en deux grandes familles, les météorites qu'on va appeler primitives et non primitives. Les météorites primitives nous permettent d'étudier la formation du système solaire parce qu'en fait elles contiennent toutes les poussières du début du système solaire. On peut dater le système solaire, on peut connaître sa composition et on peut connaître les premiers petits minéraux qui sont apparus. Les météorites non primitives, elles vont nous renseigner sur la formation des planètes. Comme un astéroïde va fondre, il va avoir un noyau métallique et une croûte, comme sur Terre d'ailleurs. Et donc ces météorites non primitives nous renseignent sur la formation des planètes.
Il y a Hubert Reeves qui disait qu'on était tous poussière d'étoiles. Est-ce que ça a un rapport justement avec ces astéroïdes et ces météorites ou pas?
Alors nous sommes en effet des poussières d'étoiles puisque les étoiles sont des usines à éléments. Au début du Big Bang, on n'a que de l'hydrogène et de l'hélium et tous les autres éléments du tableau périodique en fait sont fabriqués dans les étoiles. Et ce qui veut dire que chaque système solaire part avec un budget légèrement différent de chacun de ces éléments. Et ça c'est important pour nous parce que connaître la composition initiale du système solaire, ça nous permet de faire des prédictions sur la composition des planètes.
Donc au niveau des astéroïdes qui atterrissent sur Terre, est-ce qu'ils peuvent avoir encore un impact sur des nouvelles vies sur Terre ?
Donc en fait, on pense aujourd'hui que le début du système solaire était un moment extrêmement difficile. Il faisait très très chaud, c'était un barbecue géant. Et donc, on n'a pas de vie au début du système solaire. Par contre, on a des astéroïdes qui sont très riches en matière organique. Ils n'ont pas de vie, mais ils ont les blocs Lego du vivant. Et ils vont réapporter sur Terre toutes ces petites briques qui vont permettre à la vie d'émerger quand les conditions seront propices, avec de l'eau liquide, une atmosphère, etc.
On parlait il y a quelque temps avec un de vos collègues dans une émission sur les insectes, comme quoi il y a des insectes qui apparaissaient et qui disparaissaient directement sans même qu'on ait la connaissance de l'espèce. Est-ce qu'au niveau astéroïde, ça pourrait justement apporter quelque chose dans le vivant qui apparaît et qui disparaît sans qu'on puisse le savoir ?
Au niveau de la matière organique, c'est quelque chose qu'on essaie d'étudier, mais malheureusement, on a un regard biaisé sur la population d'astéroïdes. On est très content d'en avoir sur Terre, évidemment, mais aujourd'hui, on a sans doute des astéroïdes qui existent et que l'on n'a toujours pas échantillonné sur Terre. Donc évidemment, ce sont des recherches qui sont en cours et on attend beaucoup les missions spatiales qui permettront d'aller vers des astéroïdes et d'étudier ces types qu'on n'a pas forcément sur Terre. Maintenant, des astéroïdes d'un seul type, aujourd'hui, on a des météorites qui sont uniques sur Terre. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'astéroïde qui a donné cette météorite était-il unique ? Est-ce qu'on a des astéroïdes qui ont disparu, des familles d'astéroïdes qui ont disparu ? Donc ça, c'est vraiment des grandes questions que l'on a aujourd'hui.
Est-ce que via un astéroïde, on pourrait imaginer justement une vie extraterrestre ? Est-ce qu'il y aurait des indices qui diraient que sur certaines planètes, il y aurait justement, parce qu'on parlait de Mars, que ça croise Mars, donc c'est la grande exploration pour l'instant de Mars, de savoir si on pourrait y vivre ou s'il y aurait de la vie sur quelque forme que ce soit. Est-ce que justement, ça peut donner des informations par rapport à ça ?
Pour avoir de la vie, il faut quand même quelques conditions particulières. La première, c'est d'avoir de l'eau liquide, parce que l'eau liquide est vraiment le solvant le plus simple pour que les atomes de carbone se combinent et finissent par former de la vie. Donc ça veut dire qu'un astéroïde n'a pas d'eau liquide et donc est un endroit peu propice. Mars, par contre, a connu de l'eau liquide, a peut-être de temps en temps de l'eau liquide sur sa surface, donc là, c'est tout à fait différent. L'idée ici, c'est vraiment que l'on a les matériaux de la vie, mais qu'on n'a pas forcément de vie dans les astéroïdes.
Et ici, donc, cette roche qu'on a découverte à Tintini, elle est composée de quoi ?
Alors, ça, malheureusement, les météorites ne contiennent rien de très particulier comparé aux roches terrestres. On n'a pas d'éléments nouveaux, on a rarement des minéraux nouveaux, mais c'est leur quantité qui va indiquer qu'il s'agit vraiment d'une roche non terrestre. Donc on a des minéraux comme sur Terre, mais leur proportion sera différente. Et là, on sait qu'on a affaire à du matériel extraterrestre.
Au niveau du nombre de météorites, je suppose qu'il y a des météorites qui tombent en nombre, en grand nombre, en petit nombre sur la Terre.
Alors il tombe beaucoup de matériel extraterrestre, environ 47 000 tonnes par an. Donc ça paraît énorme, mais il faut distinguer les micrométéorites, donc qui sont des poussières de météorites, c'est 40 000 tonnes par an. Donc ça c'est vraiment la majorité de ce qui arrive de l'espace. Et donc ça ne pose aucun souci évidemment pour l'humanité. Maintenant les météorites, ça représente environ 7 000 tonnes par an. La Terre est composée à 2/3 d'océans, donc ça veut dire que ces 7000 tonnes, 2/3 sont d'office perdues dans les océans. Et les surfaces, on va dire, civilisées, donc où les gens ont des capacités internet, téléphonie, etc., ne représentent que 2% en fait de la surface terrestre de la Terre. Et donc ça veut dire que la probabilité qu'une météorite tombe sur une zone habitée est en fait très très faible.
Très très faible. On parle aussi dans le communiqué de presse que c'était quand même un matériau assez rare, enfin une composition assez rare, la météorite de Tintini. Mm-hmm. Parce qu'il y avait d'autres météorites aussi, hein. Je crois qu'il y en a 4 qui ont été retrouvées en Belgique avant celle-ci ou 5.
Donc aujourd'hui, on a 5 météorites qui ont déjà été récoltées en Belgique, mais ce sont toutes des météorites primitives. Donc ce sont des types que l'on va appeler ordinaires, communs, parce que ce sont celles qu'on retrouve le plus souvent. Celle de Tintigny, elle est beaucoup plus rare. C'est une famille de météorites qui ne compose que 2% de toutes les météorites mondiales. Et donc, de nouveau, c'est la première qui n'est pas primitive en Belgique.
On peut rappeler ce que c'est primitive et pas primitive ?
Alors, une météorite primitive, elle vient d'un astéroïde primitif. Et donc, c'est un astéroïde qui n'a jamais fondu depuis le début du système solaire. Ça veut dire qu'il est composé de poussière du début du système solaire, mais qu'il est resté intact, en fait, depuis ce moment-là. Une météorite non primitive, au contraire, elle aura fondu. Donc, on va avoir de la lave dans l'espace, de l'activité volcanique. Donc là, évidemment, on perd toutes ces poussières du début du système solaire, mais on va gagner l'information de la formation des planètes.
En tout cas, c'est très très complet comme information. Merci beaucoup. On peut venir voir cette météorite ici au Musée des sciences naturelles de Bruxelles. À partir de quand ?
Alors, à partir de ce mardi 11 décembre, la météorite sera exposée dans l'exposition générale des minéraux. Et un peu plus tard, elle va rejoindre ses copines belges, finalement. Et donc, il y a une petite exposition qui est dédiée uniquement aux 6 météorites belges, donc 5 météorites primitives, et celle de Tintigny, qui n'est pas primitive.
Donc, elle sera définitivement à la maison, ici.
Elle est à la maison. Ce qui est important, finalement, c'est qu'elle puisse être accessible au plus grand nombre, au public. Et c'est vrai que d'avoir rassemblé toutes les météorites belges, c'est un beau petit exploit. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de venir le voir.
Ah ben donc, on invite tous nos auditeurs à venir voir cette météorite de Tintigny. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Pour Noël, la joie se partage sur RCF.
Les calottes sont cuites. Alors, les calottes sont cuites, c'est quoi cette expression, Michel ?
Ben, il faut entendre les calottes glaciaires, bien sûr. J'aimerais revenir sur l'événement qui a eu lieu au début de ce mois, le 2 décembre. Ce dimanche-là, malgré une météo plus favorable aux grenouilles qu'aux bipèdes que nous sommes, plus de 70 000 personnes s'étaient mobilisées pour participer à la marche pour le climat au centre de Bruxelles.
Alors, cela t'éloigne de tes sujets de prédilection, qui sont les oiseaux ?
Ben, pas tellement, car en mars de cette année, une étude des plus sérieuses démontrait un taux d'extinction des vertébrés de plus ou moins 32%. Et la classe des vertébrés inclut les mammifères, les reptiles, les amphibiens, et les oiseaux.
Alors, peux-tu revenir un instant sur cette manif ?
Oui. En fait, le parcours était tracé de la gare du Nord au parc du Cinquantenaire et comprenait deux cortèges au circuit séparé. Des cyclistes.
À vélo.
Et des piétons.
À pied.
Bien vu. La veille, les organisateurs tablaient sur la présence de 20 à 25 000 personnes. Nous étions entre 65 et 75 000 suivant les estimations. Ces mêmes personnes, je ne sais si on devait les appeler manifestants, tant cette foule bon enfant se composait de poussettes, de familles entières, du grand-père à la petite fille, de jeunes et de moins jeunes, des troupes de scouts et de plus de 70 organisations non gouvernementales, dont notre association Natagora. Qui plus est, à contrario d'autres manifestations, que l'on pourrait appeler plus classiques, le cahier des revendications, comme on dit dans les revues spécialisées, était des plus éclectiques. Crise alimentaire, réduction des déchets en plastique, accroissement des énergies renouvelables, plus de respect pour la nature, sauvegarde des abeilles et plus encore.
Bref, un sentiment que l'inaction de nos politiques a poussé ces gens-là à se mobiliser.
Oui, et à l'aide de slogans des plus créatifs.
Et l'heure est grave donc.
Ah que oui, selon ce fameux rapport dont j'ai parlé au début, la disparition à petit feu de la faune et de la flore s'accompagnera de graves conséquences pour les différents écosystèmes. Et on pourrait prévoir des désastres écologiques, économiques et sociaux.
Et pourquoi donc, Michel ?
Car les milieux naturels rendent des services aussi nombreux qu'essentiels. Qu'il s'agisse de la pollinisation, de l'amélioration de la productivité des terres, l'assainissement de l'air et de l'eau. De plusieurs lectures à ce sujet, j'ai retenu que la capacité de la Terre à entretenir la vie, y compris la vie humaine, a été façonnée par la vie elle-même.
Alors, est-ce qu'on est découragé pour ça, Michel ?
Non, mais j'ai quelques exemples. Donc, ce changement climatique et la hausse des températures qui l'accompagnent se traduit déjà par des migrations précoces. Les oiseaux bougent de plus en plus tôt, car les plantes se développent plus tôt et les insectes suivent la croissance des plantes. Un autre exemple, on assiste à plusieurs reproductions de papillons par saison, au lieu d'une seule fois dans un passé récent. Mais le soir de dimanche 2 septembre, un message d'un de nos politiques était des plus encourageants. La question climatique doit être une préoccupation centrale au service des générations futures. Et le lundi matin, un autre de nos politiciens s'envolait au bord d'un avion vers la Pologne pour un aller-retour uniquement protocolaire au sommet pour le climat, le fameux COP24, pour ne rien signer du tout. un mini-trip correspondant à une émission de plus de 20 tonnes de CO2. Cela correspond en termes de bilan énergétique à plus de 110 000 km en voiture, ou plus parlant encore, 4 années de chauffage d'un ménage moyen.
C'est ce que je te disais là tantôt, hein, Michel, c'est vraiment décourageant, non ?
Ben non, peut-être pas. On sent pousser quelques mouvements citoyens qui sont loin d'être éphémères. Et cela me fait penser à une petite légende sortie toute droite de ma sacoche.
Ah, elles sont bien, celles-là.
Ah ben voilà, elle est grande, ma sacoche, c'est comme Mary Poppins.
Oui, c'est ça, ou Mimi Mati.
Mimi Mati, voilà. Ben, c'est une légende amérindienne, d'après Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, c'est une figure représentative du mouvement politique et scientifique de l'agroécologie en France. Un jour, dit la légende, il y a eu une immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient impuissants le désastre. Sauf le petit colibri s'active, allant chercher dans un lac tout proche quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?»« Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part. » Nous étions donc 75 000 colibris à arpenter le boulevard botanique ce dimanche 2 décembre 2018.
Joyeux Noël sur RCF.
Bah oui, effectivement, Michel, donc en rapport à la marge du climat, il y a eu la COP24 qui vient de s'achever et le sentiment est très mitigé. Cette 24e conférence des parties était une réelle mise à l'épreuve de l'accord de Paris puisqu'il s'agissait de mettre concrètement en œuvre tout en envoyant un signal fort et ambitieux en matière de politique climatique à la lumière du nouveau rapport spécial du GIEC. Alors si on peut se satisfaire que l'opérationnalisation de l'accord de Paris soit en bonne voie, on peut regretter que la question de l'ambition du rehaussement des engagements globaux aura été un peu abordée et très peu abordé pendant cette COP, et ce malgré les conclusions alarmantes des experts du GIEC. Dans ce contexte de tergiversation, l'Union européenne doit faire preuve de leadership face à l'urgence climatique. C'est pourquoi Bruxelles plaide fermement pour une Union européenne qui relève ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre de 40 à 55% d'ici 2030. Outre l'adoption du plan national énergétique climat, qui matérialise l'ambition européenne dans une série d'actions, le gouvernement bruxellois a décidé de mettre en place une task force bruxelloise qui veillera à respecter les engagements européens, voire à leur augmentation, conformément à la proposition que Bruxelles souhaite voir prise par l'Union européenne. L'aide et l'hébergement des personnes sans abri. Le dispositif régional d'aide d'hébergement des personnes sans abri permet d'ouvrir de nombreux et importants lits au sein de 3 centres d'accueil. Ce dispositif est complété par un plan fédéral qui se déploie concomitamment avec un plan régional. Alors, l'objectif est d'appliquer une politique non-refus pour toutes les personnes sans solution d'hébergement, indépendant du statut ou de l'origine. Pour continuer à respecter cet engagement, le ministre président Rudy Vervaux, la ministre de l'Action sociale Céline Frémaux et Pascal Smet ont engagé des budgets supplémentaires pour garantir un accueil inconditionnel. Et pour terminer, donc une bonne nouvelle, l'augmentation des montants pour 2 primes d'énergie, initiative de la ministre de l'Environnement Céline Frémaux. Le gouvernement bruxellois a entériné le 6 décembre dernier une augmentation des montants pour 2 primes d'énergie particulièrement impactantes en termes d'efficacité énergétique, la prime d'isolation des murs par l'extérieur et celle de l'achat d'une chaudière à condensation. Le montant nécessaire pour financer l'augmentation du montant de ces 2 primes est de 3 millions d'euros. Cette augmentation vise à accroître l'activité des primes énergétiques bruxelloises et à stimuler la rénovation énergétique du bâti bruxellois. En outre, une nouvelle prime de 100 euros sera introduite le 1er janvier 2019 pour aider les familles et les personnes précarisées à payer le contrôle périodique obligatoire de la chaudière. On continue avec Bruxelles Nature Sauvage et en musique.
RCF, la joie se partage.
salons protégés. N'entendent pas l'oiseau qui chante, n'entendent pas l'oiseau chanter. Pressentant comme un danger.
Pour Noël, la joie se partage sur RCF.
Joyeux Noël à tous. Merci d'avoir rejoint Bruxelles Nature Sauvage sur RCF Bruxelles. Je suis toujours en compagnie de Michel. Ça va, Michel, tout va bien ?
Ouais, tout complètement cool.
Tout complètement cool. Voilà, ouais. Je vous propose à présent de partir vers un quartier qui s'appelle le quartier Meunier. Notre histoire est une campagne de mobilisation lancée par ce comité de quartier Meunier. Actif depuis 2012, le comité représente les habitants des environs de la place Constantin-Meunier à Forêt. Outre une contribution à l'amélioration de la vie du quartier, ses objectifs principaux sont la défense du patrimoine et du développement durable. Alors, depuis 2015, le comité Meunier s'est constitué en ASBL et depuis avril 2016, il est devenu membre d'Inter-Environnement Bruxelles. Voici donc sur place ce reportage dans le quartier Meunier.
RCF.
Donc, nous sommes déplacés dans le quartier Meunier pour rencontrer deux habitants du quartier qui sont activement en protection de la nature du quartier. Et donc, à mes côtés, j'ai...
Laure et Françoise.
Et Françoise. Alors, est-ce qu'on peut un petit peu expliquer le but de votre comité de quartier ?
Oui, avec plaisir. Donc, notre comité de quartier est né au départ comme association de fête. En réaction à différents projets immobiliers qui voulaient s'installer et défigurer relativement fortement le quartier. Voilà, donc ça a commencé petit, on a commencé aussi avec des choses un peu festives. Et puis, donc très rapidement, on s'est rendu compte que d'être en groupe avec les mêmes objectifs. Ça nous donnait l'opportunité de défendre un patrimoine dont on a constaté qu'il était assez menacé finalement. Alors ça a commencé avec une mobilisation plutôt autour du patrimoine construit, donc de tout ce qui concerne l'architecture, mais en même temps, on est ici dans un quartier où il y a d'anciennes propriétés assez grandes et très arborées, et donc on a aussi des avenues plantées d'un patrimoine, par exemple, de marronniers très anciens, centenaires. Donc on s'est rendu compte que la défense du patrimoine ne concernait pas seulement l'architecture, mais bien aussi tout ce qui est environnement, planté, arbres, jardins, etc.
Donc on parlait de arbres à marronniers, donc c'est ici tout près de l'avenue Galbert, c'est ça?
Oui.
Donc il y a eu un projet il n'y a pas longtemps, c'est ça, d'élagage des arbres?
C'est pas un projet, il y a eu un élagage très important, un élagage radical, on peut dire, de tous les marronniers de l'avenue Albert, qui a eu lieu début mars. Donc les riverains sont beaucoup mobilisés pour ça, parce que ça défigure quand même, on a maintenant une allée de porte-manteaux, ce qui est un peu dommage. Et donc on a constaté aussi les effets de la canicule cet été, et notamment ces grands marronniers nous étaient très précieux. Et donc les riverains sont mobilisés, mais ne pouvaient déplorer que cet élagage qui a été poursuivi là au mois de septembre, novembre. Voilà.
On est intervenu plusieurs fois au cabinet du ministre Smet, mais voilà, il n'y a pas eu moyen d'empêcher.
Il n'y a pas de projet d'abattage, les arbres vont rester sur pied.
Ça, c'est la grande question, puisqu'il y a un projet de réaménagement de façade à façade. Donc, on ne sait pas très bien ce que nous réserve ce projet, puisque ils n'ont pas été très transparents sur ce futur projet. Mais on sait qu'il y a un projet. Est-ce que avec les marronniers ou sans les marronniers, ça devrait être débattu au cabinet et avec les riverains.
On a parlé que c'est un quartier très architectural, donc il y a pas mal d'architectes de renom qui ont construit des villas par ici. Mmh. Et nous sommes ici en face de la villa de Wynne. Alors, c'est un autre combat que vous avez aussi pour protéger.
Ah
alors,
oui.
Autre l'aspect architectural, on peut en parler peut-être un petit peu maintenant. Mmh. Après, on pourra parler des jardins.
Donc, Jean-Baptiste de Wynne, c'est un architecte très important pour la commune de Forêt, puisque c'est lui qui a fait la maison communale, qui a fait plusieurs habitations dans le quartier, et donc qui est un architecte art déco assez méconnu, mais très très intéressant. Et donc le combat du comité de quartier, ça a été en effet de faire classer cette maison, cette villa qui n'était pas classée. Donc ça, on y est arrivé. Donc la région en 2016 a protégé la villa, l'intérieur, puisque l'intérieur est magnifiquement préservé. Et il y a un grand jardin qui s'étend vraiment jusqu'à la place Constantin Meunier, donc qui était de plus ou moins 30 arts au départ, et qui a subi des reparcellisations et qui a été malheureusement racheté par un promoteur qui veut bâtir au sein du jardin un grand complexe immobilier. Donc la région n'a classé qu'une partie du jardin. Et donc là, on reprend le combat justement pour préserver l'entièreté de ce jardin qui est, à notre sens, assez typique de ces jardins de l'entre-deux-guerres.
Quelle est la particularité donc de ce jardin, Dominique?
Alors, il présente une... Donc il y a deux parties. Il y a ce qu'on voit ici à front de rue de la rue de la rue Meyerbeer. C'est une roseraie qui a une architecture encore assez symétrique. Et qui fait un petit peu écho au plan rectangulaire de la maison. Donc on sort de la maison dans la roseraie, on se trouve dans cette partie un petit peu plus symétrique, et puis directement, on a accès à une partie beaucoup plus naturelle du jardin, qui présente des allées de promenade en courbe, des buissons, des fleurs, et qui est entouré par toute une série d'arbres très anciens, donc qui datent de la construction de la maison. Et donc le plan arrière forme un rectangle qui est tout entouré d'arbres. Et ce rectangle correspond en fait à un rectangle d'or, c'est-à-dire il a des proportions parfaites. Voilà. Et au niveau des plantations, les plantations sont d'origine. Donc ça a une grande valeur biologique, ça a une valeur patrimoniale naturelle.
Voilà. Et de ça donc les questions justement de construire dessus ou de garder cet espace-là?
Donc en fait, c'est assez compliqué parce qu'il y a une partie de ce jardin qui a été classée en même temps que la villa, mais l'autre partie n'a pas été classée. Donc, et c'est sur la partie non classée en fait qu'est prévu un projet immobilier. Donc là, le comité, ce qu'il veut, c'est qu'il a déposé une demande d'extension du classement pour que l'ensemble du jardin soit préservé, pour qu'on garde la cohérence de ce jardin, de ses tracés des années 30, qui ont souvent disparu. En fait, on a pu faire un relevé de tous les jardins du quartier et à Bruxelles qui ont été soit amputés, soit qui ont disparu. Et donc, on se rend compte que les jardins sont souvent un patrimoine très fragile et que souvent, les mesures de classement n'en tiennent pas compte. Or, on sait qu'en plus, à l'époque, ces jardins étaient construits dans le concept de l'art total. Donc, les architectes construisaient leurs maisons, mais pensaient évidemment aux jardins qui faisaient partie d'un tout. Donc pour nous, c'est vraiment important aussi parce que ce jardin représente un poumon vert du quartier et que cette configuration voulue par De Huyn est importante pour tous les gens du quartier, puisque même tous ces gens, il y a beaucoup d'appartements, beaucoup de hauts immeubles et donc qui profitent de cet espace vert et donc qu'il est nécessaire de protéger.
Oui, au-delà de ça, c'est aussi un formidable couloir écologique pour les animaux.
Oui,
donc,
bien
à
sûr.
Préserver, hein, on parle d'oiseaux, insectes.
Bien sûr. La région bruxelloise a fait un plan nature qui est sorti en 2016, si je me souviens bien. Donc le plan nature insiste justement sur le maillage vert, le maillage bleu aussi, mais ici vraiment c'est ce jardin, c'est avec une surface pareille, c'est un élément important pour le maillage vert, d'autant plus qu'il n'a pas été transformé depuis son origine. On se retrouve avec des sols et des végétations qui sont inchangées et donc qui ont vraiment une valeur biologique très importante. Voilà, donc on trouve aussi que dans la philosophie du plan nature, la préservation de cet espace, ça s'inscrit parfaitement bien.
Et vous avez fait appel à d'autres associations de nature, je pense à notre Agora.
Oui, bien sûr, on est en contact régulier avec notre Agora.
Notre association fait partie aussi de Bruxelles Nature.
De Bruxelles Nature,
oui,
voilà, oui.
Et on a un réseau, enfin à Bruxelles, les, ouais, les réseaux d'associations.
C'est ça, oui, tout à fait, il y a pas mal.
Et on se soutient parce que.
Oui. Et au niveau Forestry, on est aussi en contact avec les comités de quartier des environs, mais aussi avec, par exemple, les gens qui défendent le Marais Wills. Donc on a vraiment, au niveau naturel, on essaye de former une espèce de réseau de comité de quartier pour voilà, qu'on comprenne aussi à Forêt, on a toute la problématique de l'eau puisque les dénivelés sont très très importants, donc voilà, progressivement on construit aussi nos savoirs et la solidarité avec d'autres comités pour la défense.
Au niveau de la villa, donc le jardin, vous espérez qu'il soit public ou bien ça restera privé?
Alors, c'est vrai que on aimerait bien qu'il soit public. On fait appel aux autorités communales, régionales, pour qu'un partenariat public-privé puisse voir le jour, parce qu'en fait depuis 2 ans les riverains ont constaté donc que la maison est à l'abandon puisqu'elle a été rachetée, mais elle est vide et donc la roseraie était tout à fait à l'abandon, donc il y a Le week-end, on s'est rassemblés pour entretenir le jardin avec l'accord du propriétaire. Donc ça a créé beaucoup de liens. Et donc on s'est dit, on a beaucoup réfléchi à faire justement un projet citoyen dans ce jardin. Donc ce serait vraiment très très chouette qu'on puisse concrétiser ce projet-là. Donc on a plusieurs projets pour la villa et pour le jardin. Mais
le propriétaire actuel, il est conscient du problème. Est-ce qu'il est de votre côté, du côté des pouvoirs?
Oui.
Comment il se place, le propriétaire de la villa?
Le propriétaire de la villa, il est assez... donc une voisine est en contact avec lui et il a l'air assez... Il nous soutient, en tout cas. Voilà, il se rend compte que de la... Comment dire, un peu de la... C'est la perversité de cette maintenant on se trouve avec une propriété qui appartient à deux personnes différentes, un jardin qui est à moitié classé, donc tout ça c'est une situation plutôt malsaine. Lui, voilà, il veut vendre cette villa, il n'arrive pas parce que avec un tout petit bout de jardin, il ne reste plus qu'un mètre de jardin derrière. Donc c'est amputé, ça ne ressemble plus à rien.
Et la perspective d'un projet immobilier dans l'autre partie.
Côté, effectivement, ça n'a pas
beaucoup
de sens. Donc
voilà, c'est très compliqué pour une très très belle maison. Donc l'intérieur est vraiment magnifique.
Effectivement, en plus l'intérieur de la maison, effectivement, c'est le jardin qu'on voit d'ici à l'extérieur qui
oui, oui,
qui mais est magnifique en été quand même, avec
oui,
les roses.
Et surtout aussi parce que on parlait d'art total. À l'intérieur de la maison, la décoration de la maison, la décoration intérieure est en lien avec le jardin. Donc il y a des motifs de roses qui rappellent la roseraie, il y a des vitraux avec des cerises qui rappellent le vieux cerisier qui est un arbre remarquable au fond du jardin. Tout ça contribue à cet ensemble cohérent. Donc c'est vrai que nous, on a aussi des idées d'un lieu d'exposition ou d'un musée art déco dans ce lieu qui accueillerait ça de manière
autre chose que l'abandon.
Voilà. Donc on a parlé de la villa de Wien, on a parlé des arbres de l'avenue Albert. Quels sont les autres projets ou les autres actions que vous voudriez mener donc en tant que comité de quartier? Et le square, par exemple, ici, le square Mounier, est-ce que vous pourriez...
On a déjà interpellé la commune sur différentes choses. Bon, par exemple, au niveau végétal, c'est vrai que c'est pas du tout optimal. Il y a une partie des haies a disparu. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. On pourrait renforcer l'intérêt écologique, l'intérêt esthétique aussi en plantant ne serait-ce que quelques massifs fleuris.
Ceci dit, ça reste quand même une place assez conviviale. Ouais. Et c'est vrai que nous, on fait souvent nos fêtes de quartier là, qui rassemblent beaucoup de gens. Et c'est un lieu, en fait, c'est assez convivial parce qu'il y a l'hôpital Molière, pas loin.
Près,
et donc, en été, souvent, les malades viennent jusque-là. C'est vrai que ça pourrait
être un petit peu mieux, mais enfin oui. Voilà, on a constaté aussi des tailles, donc les arbres, les deux platanes centraux sont des arbres remarquables. Les arbres autour ont été l'année dernière élagués d'une façon très brutale et voilà, pas du tout en accord avec la taille douce qu'on pratique. Qu'on pratique plutôt maintenant quand on pratique des choses dans la voie un peu écologique, mais voilà, donc il y a des choses à améliorer certainement au niveau de l'engagement du comité. Des projets comme ça, ce sont quand même des choses ambitieuses qui réclament beaucoup de recherche, donc ils sont assez chronophages et voilà, ça, on mobilisait rassembler 330 signatures en deux jours pour pouvoir faire aboutir la demande d'extension de classement. C'est quand même, ce sont des choses
qui prennent du temps.
Oui, oui, et beaucoup d'énergie aussi.
Beaucoup d'énergie,
hein.
Ouais.
Donc voilà, donc dans l'immédiat, ça, ce sont nos combats avec l'avenue Albert. Voilà. Par ailleurs, on est tout à fait, en alerte toujours un peu.
Y a-t-il un événement à venir qui permettrait justement de soutenir le quartier d'ici à quelques mois, hein? Donc, quel est un événement ponctuel qui se fait dans le quartier?
Fêter
On fêtera le quand on aura la, voilà. quand le classement du jardin sera, oui. sera fait. Non, mais on a chaque année, on a lors de la journée sans voiture, on fait toujours une grande fête sur la place Constantin Meunier. Et puis alors ponctuellement, oui, dans l'année, on se retrouve de temps en temps. Enfin,
Des balades sont organisées ou pas ?
Oui, on a fait une balade. On a organisé une balade Art déco. On a organisé aussi une soirée cinéma qui a eu beaucoup de succès parce que pendant les journées du patrimoine, on avait vu un film qui concernait la restauration du parc Ten Bosch à Ixelles. Le réalisateur est un voisin d'ici et donc il nous a autorisé à diffuser le film en soirée et donc ça a été vraiment une très 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 chouette initiative qui a intéressé beaucoup de gens et qui est aussi et justement où les voisins ont fait directement le lien entre cette initiative du Parc Ten Bosch, qui était une initiative citoyenne, le jardin de la Villa de Wynne, dont on espère effectivement qu'il sera un jour pour le quartier.
Pour le quartier, peut-être sujet d'un film aussi, qui sait.
Ça serait.
Oui, voilà. On a de quoi raconter.
Peut-être encore un dernier message à quelqu'un, aux autorités, quelque chose qui vous tiendrait au niveau militance.
Oui.
Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer par rapport à ça ? On sait qu'à Forêt, il y a une nouvelle majorité écolo.
Oui. Moi, je dirais qu'au niveau de la région lance beaucoup de des choses comme le plan nature, par exemple. Il y a un discours de la région qui va dans un certain sens. Après, on n'a pas forcément l'impression que ça se traduit vraiment, que c'est vraiment concrétisé. Donc, moi, personnellement, j'aimerais vraiment bien que tous ces plans et toutes ces idées qui sont intéressantes et qui sont certainement très très valables, qui sont dans le courant des choses à faire. Hein. Bon, on se rend bien compte qu'au niveau écologique, il y a beaucoup de choses à faire. Je trouve qu'il n'y a pas assez de cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc ça, c'est un appel.
Et moi, je pense que les citoyens ont beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes idées et qui ne demandent qu'à être mises en œuvre. Et je pense que plus d'écoute de la part des autorités communales et régionales, parce que c'est des projets citoyens pour l'avenir de la commune et du patrimoine qu'on a à préserver pour l'avenir. Donc, qui nous écoute.
En tout cas, voilà, donc les auditeurs peuvent nous écouter, ça certainement. Heureusement encore, comme les auditeurs qui nous écoutent et que ça sert encore à quelque chose. Bon, donc, ils pourront venir se balader ici dans le quartier Meunier quand ils veulent et venir voir cette villa qui est magnifique. Voilà, du moins de l'extérieur pour l'instant, et on espère quand même un jour pouvoir y rentrer dedans et faire
avec
une visite
plaisir.
Botanique.
Oui, voilà, on a un site internet, on annonce effectivement les différentes initiatives.
Notrehistoire.be. Mais voilà, c'est noté.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne chance pour votre projet et à très bientôt.
À bientôt.
Pour Noël, la joie se partage sur RCF.
Alors, si vous voulez soutenir le quartier Meunier, vous pouvez devenir membre de leur ASBL en faisant la demande par mail et en réglant votre cotisation annuelle, 50 euros pour membre effectif et 20 euros pour membre adhérent. Au choix, hein, sympathisant également, ou en faisant un don sur leur compte BE 084 017 50 21 57 59, BE 084 017 50 21 57 59.
Joyeux Noël sur RCF.
On continue en musique sur RCF avec la suite, c'est Monsieur Alex et Don't Need You.
Je suis à contre-temps, passionnément, J'explose, tu attends. Wow. Au fil des notes, lecture puis stop. Tu prends la porte. Naïf regard, d'avance je pars. Déjà trop tard. Wow. Indéchiffrable, parfois adorable. Produit instable. Don't need your love. Let it be in the cards above. Shut up at me along the previous century. Don't need your love. Cause there is nothing above them to be here and free this century. And I am done. And I am gone. Oh yes, I'm done. So freaking gone. Sans risque pris, sois mon ennemi. Wow. Fini les liens, j'adopte le rien. Je lâche ta main. Je deviens sage, je prends de l'âge. Fin des enfantillages. Wow. Sans état d'âme, je trouve le sésame. Là est ton drame. Don't need your love. Let it be in the cards above. Shut up at me along the previous century. Don't need your love. Cause there is nothing above them to be here and free this century. And I am done. And I am gone. Oh yes, I'm done. So freaking gone. Je ne serai plus vraiment moi. En attendant, je cours en riant infiniment. Don't need your love. Let it be in the cards above. Shut up at me along the previous century. Don't need your love. Cause there is nothing above them to be here and free this century. And I am done. And I am gone. Oh yes, I'm done. So freaking gone. Don't need your love. I don't need your silly love. Goodbye, you and the gods above.
Vous êtes toujours sur RCF, dans Bruxelles Nature Sauvage, et dans quelques instants, c'est bientôt la fin de l'émission, mais en marge du reportage du quartier Mounier, la défense de l'environnement en ville ne date pas de la médiatisation intense qui se passe actuellement, Michel. Hein, donc pour l'instant, c'est vrai qu'on est fort, tout ça est fort médiatisé partout, mais cette défense de quartier, ben, ça a presque déjà 50 ans d'ici. Ça s'est passé dans le quartier Saint-Jope. Les revendications et actions écologiques n'ont pas beaucoup changé depuis cette époque-là, et donc malheureusement, ça révèle que l'immobilisme destructeur de notre environnement est déjà bien avancé hein, depuis un bon bout de temps. Alors, ce quartier comprend le plateau Havel, le Couberc et bien sûr le Brook, que certains connaissent.
Hein, une des réserves naturelles de la régionale bruxelloise, Natayova.
Alors, ce sont des espaces qui sont de plus en plus réduits, mais qui méritent d'être préservés. Et on fait confiance au comité de quartier de ces quartiers, notamment le comité de quartier Havel et SOS Couberc, pour préserver ce qui reste de ce quartier. Donc, voici ce reportage qui date des années 1970. Et vous allez voir que c'est un petit hameau, un petit village. On a l'impression d'être à la campagne. Et voici ce reportage que vous pouvez retrouver ce reportage sur YouTube également, en entier. Ici, on en passe un court extrait, de façon à ce que nos auditeurs puissent entendre un petit peu l'évolution sur 50 ans. Bien triste nouvelle, il n'y a pas grand-chose qui a bougé, Michel.
Ah non, la friterie est toujours là.
La friterie est toujours là, par contre. Ça, c'est un bon point.
C'est un bon point, oui.
la concrétisation immédiate de ce projet de loi. Dans un tout autre ordre d'idées, le comité de protection et de rénovation de la montagne Saint-Jope avait invité les habitants de ce quartier à descendre dans la rue cet après-midi pour exprimer leur inquiétude à propos des plans d'aménagement envisagés pour ce vieux coin tranquille de la commune d'Uccle. Saint-Jope veut garder son charme tranquille et campagnard, précisément, et ses amoureux ont exprimé leur slogan et leurs revendications avec le sourire, vous le voyez, et dans une chaleureuse ambiance folklorique. En signe de solidarité avec l'action du comité de protection, les commerçants du quartier ont fermé boutique pendant une heure cet après-midi.
Autrefois, Saint-Jope était un hameau d'Uccle apparemment sans problème, sans histoire, ne comptant que quelques maisons groupées autour de l'ancien château des barons de Carlo. Aujourd'hui, Saint-Jope est entouré de quartiers résidentiels comme ceux de Font-Roi et de l'Observatoire, constitués essentiellement de grandes propriétés, de grosses maisons et de verdure. Au centre de tout cela, Saint-Jope est encore un peu la campagne, le village où l'on s'intéresse aussi bien aux courses cyclistes, aux pigeons, à la pétanque, qu'aux grands problèmes d'urbanisme et d'aménagement d'un quartier où l'on aime vivre. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, dit-on. Mais les habitants du vieux Saint-Jope, en haut de la rue de la Montagne, s'ils ne sont pas malheureux, sont quand même entrés dans l'histoire. Dans notre histoire, qui commence au début de l'année 1973 à cause de grands projets qui ne leur plaisaient pas. C'est ici que tout a commencé. Monsieur Plateau, qui nous raconte le début de cette histoire, est un agent de police retraité, passé, comme il aime le dire, du côté de la contestation.
Donc nous sommes ici au milieu du plateau à Val. Derrière vous, vous avez le bâtiment des Trimaux, donc la cage à poules là-bas, qui a été construit par les Trimaux, mais il y avait un projet, donc on allait construire le même genre de bâtiment ici, en forme de croix. Quand les Trimaux a fait faillite, évidemment, tout ce bazar a été abandonné. Alors la commune en a profité pour acheter le terrain de 5 à 6 hectares qui se trouve ici derrière. De sorte que la commune, avec la partie qu'elle a là-bas, plus ici, elle a un tout. Sauf quelques propriétaires, évidemment, qui ont des fourches. Nous autres, on ne vend pas, on tient notre bien. Ici, que va-t-il se passer? La commune va tracer des rues ici dans, en forme de tête de pipe et autour, ils vont construire des maisons unifamiliales. Donc, que reste-t-il à faire à ces gens-là? Les gens âgés, et je dis âgés, qui ont 70-75 ans, ça c'est un billet pour l'hospice, hein? Ça, il n'y a pas de doute. Les autres personnes, eh bien, elles vont devoir partir, essayer de se caser ailleurs, n'est-ce pas, au mieux de leurs intérêts. N'oublions pas ceci. Ces gens qui habitent ici, et que la commune chante toujours, « Oui, vous êtes tranquille pour 10 ans, et patati et patata », vous devez bien comprendre que ça ne va pas continuer, cette histoire. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ici, c'est bien simple. Les gens qui habitent ici vivent sous la psychose de l'incertitude et de la peur. Personne ne fait plus rien à sa maison. Pourquoi? Parce que la commune, quand elle vient pour évaluer votre bien, elle donne 2 fois rien. Alors, que va-t-il arriver? Eh bien, on va détruire complètement tout ce noyau ici, qui reste encore du vieux Saint-Jope, et on va tomber dans du moderne, qui sera peut-être très beau, mais qui détruira complètement l'ambiance du quartier.
À la fin du siècle dernier, Saint-Jope devint le refuge d'une population assez pauvre, désireuse de quitter le centre de Bruxelles, où elle était victime de nombreuses expropriations, pour la construction du palais de justice, entre autres. S'installant à Saint-Jope et dans d'autres quartiers des environs, ils construisirent des habitations à leur mesure, ce qui confère encore aujourd'hui un caractère exceptionnel au vieux Saint-Jope, une dimension humaine décriée par certains, mais de plus en plus recherchée par les autres. La montagne de Saint-Jope est un quartier de vieilles maisons, de vieilles personnes dont la plupart sont retraitées. Mais depuis quelques années, des jeunes, artistes, professeurs, étudiants, Pilotes même sont venus s'y installer, découvrant et recréant ici ce qu'ils n'avaient jamais trouvé ailleurs, une sorte de fête perpétuelle.
Ainsi se termine Bruxelles Nature Sauvage en compagnie de Michel Van de Velde, notre conteur d'histoire d'oiseaux.
Et je te souhaite une excellente journée, bonne soirée également.
Merci,
et
Michel.
D'excellentes fêtes de fin d'année à toi et à tes proches.
Un petit repas de Noël en préparation?
Oui, la famille.
La famille,
voilà.
Et voilà. Ben bon appétit, Michel.
Un grand merci.
Et sera bon retour auprès de ta famille. Et merci de t'être déplacé un 25 décembre. C'est quand même bien, non?
Ah oui, c'est génial.
Voilà, chers auditeurs, à très bientôt dans Bruxelles Nature Sauvage. On se retrouve ensemble au mois de février, puisqu'au mois de janvier, on fera une émission spéciale, Michel Van de Velde. Il n'a pas capté, mais au mois de janvier, c'est une émission spéciale pour toi, Michel.
Un grand merci à toi.
On va refaire le tour de toutes tes belles histoires d'oiseaux que tu nous as contées pendant déjà 2 ans dans Bruxelles Nature Sauvage.
Un grand merci à toi.
Voilà, joyeux Noël à tous. Merci.
Voilà, merveilleux.
Pour Noël, la joie se partage sur RCF.